Permettez-moi tout d'abord de présenter les participants de cette table ronde, hein, notamment pour vous, Jacques. Sur votre gauche, Albi Schmitt, qui est le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Alsace, prochainement Bréal. Vous avez... il est où, Serge ? Alors, Serge Zarangovic, qui est directeur du développement économique et international du Conseil général de la Loire.
Non, c'est plus ça.
C'est plus ça ?
Non, c'est plus ça.
Alors, Jean-Damien Poncet, qui va nous dire ce qu'il est exactement, parce que j'avais noté qu'il était directeur de développement du Grand Port Maritime du Havre, et que ça a changé.
Oui, j'ai changé de poste, je suis à la communauté de l'agglomération Havraise pour m'occuper des grands projets. Ceci dit, dans mes interventions, je serai quand même encore largement inspiré par mon expérience précédente.
Philippe Grosvalet, vice-président du Conseil général de Loire-Atlantique et conseiller municipal de Saint-Nazaire, et Dominique Leroy, chef de la mission environnement du ministère de la Défense. Quant à moi, je suis lieutenant-colonel de gendarmerie, je travaille à la direction générale de la gendarmerie nationale. Alors, juste pour préciser la règle du jeu de cette table ronde, je vais donc introduire un certain nombre de questions par rapport au sujet, évidemment. Chaque participant de la table ronde peut intervenir librement, hein, à son initiative en fonction de son ressenti. Et bien évidemment, la salle est invitée à réagir à tout moment sur toute question. Alors, on va aborder ce débat, cette table ronde, sur un premier thème qui est relatif aux synergies, aux questions de synergie et de masse critique. Alors, on a pu voir avec l'exemple aquitain, et j'en profite pour remercier Luc qui a organisé le déplacement de notre groupe dans la région de Bordeaux, qui a vraiment été très très intéressant, mais en même temps qui nous a permis de voir qu'il y avait une multitude d'initiatives extrêmement, extrêmement variées. On l'a vu avec Exosun, avec la ferme du Gabardan, la forêt landaise. Et plus généralement, sur le plan national, il y a assez longtemps qu'on cherche à développer des instruments de coopération entre la recherche publique et l'industrie. On peut penser au Génopôle d'Evry, d'autres parcs technologiques, par exemple, je pense à celui de Grenoble. Et on peut faire le constat que malgré toutes ces initiatives, y compris les pôles de compétitivité plus récents, la France n'a pas réussi à développer de filières industrielles dans le photovoltaïque et dans l'éolien. Et tout ce qu'on a vu sur Bordeaux était très intéressant, mais malheureusement, en termes de production nationale d'équipement et en termes d'emploi, nous avons été assez généralement déçus, hein, de voir que, notamment sur le photovoltaïque, tous les produits venaient soit d'Allemagne, de Chine, et qu'en termes d'emploi, la ferme Exosun avec ses panneaux variables, finalement ne générait que 2 ou 3 emplois de maintenance. Donc finalement un faible retour en termes social pour le territoire. D'où la première question que je pose donc à la table ronde, face à cette multiplicité des initiatives, quelles sont les clés en matière de synergie pour atteindre une dimension suffisante pour des projets durables, ambitieux et créateurs d'emplois? Alors, qui souhaite réagir à cette première question?
Avant de réagir à ta question, déjà sur la France qui a loupé le créneau en fait des technologies et de la construction sur les éoliennes, etc. Premier point, je pense que je voudrais juste avoir quelques idées simples. Premier point, je pense qu'il y a effectivement, on l'a dit plusieurs fois, le marché des écothèques, c'est un marché mondial important. Alors on a cité un chiffre ce matin, mais si on prend l'ensemble des écothèques, pas simplement sur l'énergie, le ministère de l'Environnement considère que c'est 4 500 milliards de dollars par an. Pour donner
Les écothèques.
Les écothèques, oui. Là-dessus, c'est un marché pour un marché de production, c'est un marché de vente. C'est aussi un marché d'innovation. Ce matin, on a parlé des 60 millions de dollars ou 70 millions de dollars donnés à Saft, 90 millions de dollars donnés à Saft aux États-Unis par les autorités américaines. Cet été, il y a eu un projet. Exxon a mis sur la table 600 millions de dollars pour des biocarburants de troisième génération. Pour donner l'ordre de grandeur, il faut savoir qu'il y a 4 ans, le total du budget de l'État consacré aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l'énergie en France, c'était 250 millions d'euros. Vous voyez le gap. Mais c'est une mine d'or, les écothèques, mais comme dans toutes les ruées vers l'or, ceux qui font de l'argent, c'est pas forcément les mineurs, c'est ceux qui leur vendent les pelles, les pioches, éventuellement ceux qui ont les brevets pour la dynamite, etc. Mais c'est pas les mineurs. Et nous, on s'est clairement positionné en tant que mineurs. On met de l'argent à l'aval sur le développement le développement des éoliennes sur le terrain, sur la production d'énergie, etc. Donc effectivement, je pense qu'il y a un besoin de repositionner la France sur l'innovation, sur les technologies. Alors, on a loupé certaines technologies, mais il y en a d'autres, heureusement, qui arrivent. Et je pense que si on fait ça, on aura un double dividende, parce qu'effectivement, on aura des gains en termes de gaz à effet de serre, etc., lutte contre le changement climatique, mais on aura des gains économiques, et je crois que c'est un peu ce qu'on a dit. C'est quand même une bonne voie d'entrée, de rentrer par l'économie, plutôt que de rentrer par l'aspect climatique des choses. Voilà. Ça, c'était la première idée. Autre idée simple, je pense qu'on doit. Tu as parlé de taille critique. Je crois qu'on n'a pas à opposer forcément simplement sur la taille. Il y a de la place pour les grands projets et pour les petits projets. La seule chose qu'il faut peut-être avoir, c'est une notion d'échelle. C'est-à-dire, pour faire qu'un petit projet soit équivalent à. Que des petits projets soient équivalents à des grands projets, il faut les multiplier. Hein. C'est purement arithmétique. Ce matin, on a parlé, c'était Luc qui parlait du plus grand projet européen de photovoltaïque, 73 mégawatts crête. Il faut savoir qu'en production lissée sur l'année, c'est le centième d'une tranche d'un réacteur de centrale nucléaire comme l'EPR. Un centième. Alors, quand on aura 100 comme ça sur tous les départements français, on aura une tranche nucléaire. C'est quand même pas énorme. Donc, il faut avoir toujours cette notion d'échelle. Et sur les grands projets, on sait faire des grands projets qui économisent beaucoup. Bon, j'avais cité dans notre groupe de travail ce qui s'est fait sur l'usine Georges Besse à Tricastin, sur l'enrichissement de l'uranium. On a changé de technologie. On est passé de la diffusion gazeuse à l'ultracentrifugation, où on passe à la suite de l'ultracentrifugation. C'est l'équivalent, en une fois, de l'économie de 2 tranches et demie de centrales nucléaires, quand même. C'est quand même 2000 mégawatts. Là. Et ce n'est pas des mégawatts crêtes, c'est des mégawatts qui produisent 70 à 75% du temps.
Voilà. D'accord. Ouais, je voudrais qu'on ressente bien les réponses là, sur la question des synergies. D'autant que si vous avez lu, je l'évoquais tout à l'heure, le rapport sur le grand emprunt, il est question de développer 5 à 10 instituts de recherche technologique dans le domaine des énergies décarbonées. Où on va rechercher finalement un effet cafétéria en rassemblant des chercheurs et des industriels. C'est indiqué comme ça dans le grand emprunt, enfin dans le rapport. Donc vraiment, on est sur la question des synergies et de la masse critique. Alors d'abord, Jean-Damien, et après...
Oui, je peux citer un exemple de quelque chose qui se passe dans le domaine du captage-stockage du CO2. Où là, semble-t-il, on n'a pas encore loupé le coche, et on est en train, au contraire, de monter dedans, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, à travers une prise en charge donc de ce sujet-là, dans le mécanisme de chaire industrielle. Alors, je ne savais pas qu'il y avait les notions d'institut dans le grand emprunt, mais la notion de chaire industrielle, elle existe déjà. C'est un dispositif qui a notamment comme effet... à travers la création d'une fondation, de permettre de défiscaliser les moyens que les entreprises privées peuvent mettre dedans. Mais finalement, ça consiste à réunir des moyens d'entreprises privées qui sont intéressées par un sujet, pour faire travailler des laboratoires qui donc font partie de la chaire industrielle, pour que ces laboratoires précisément eh bien, arrivent à trouver des solutions. Je ne sais pas s'il faut parler d'innovation, enfin bref, en tout cas cherche à enfin explore le sujet en question. Donc là il s'agit de la chaire CO2 et on parlait de synergie. Je ne veux pas faire beaucoup d'analyses, mais je veux simplement montrer, enfin présenter la manière dont cette chaire CO2 est née au Havre finalement, même si la constitution de cette chaire n'est pas limitée à des acteurs havrais. Alors comment est née cette affaire au Havre et pourquoi au Havre? Et je crois que d'ailleurs ce sujet illustre une évidence, c'est-à-dire que les choses ne s'inventent pas par hasard, quoi. Les innovations en matière d'organisation ou de mise en commun de moyens pour traiter un sujet, elles se créent quand il y a un vrai sujet à traiter. Alors le Havre, c'est un port qui importe beaucoup d'énergie, hein, donc notamment du pétrole, et qui est particulièrement concerné par l'évolution de ce qu'on appelle le mix énergétique. Donc la question de l'après-pétrole, pour le port du Havre et plus généralement pour le bassin d'emploi du Havre, c'est une question qui a une dimension supplémentaire par rapport à la manière dont on peut l'envisager ailleurs. C'est que là, ça fait partie vraiment de la... Enfin, c'est vraiment le cœur de métier de cette place portuaire et industrielle. Et d'autre part, il se trouve que c'est sur un port qu'on peut le mieux... aujourd'hui encore installer des centrales au charbon. Et donc il y a eu des projets de centrales au charbon qui sont venus se présenter, donc des entreprises qui, en l'occurrence EDF est déjà présent et a un projet de remplacement de tranches, mais qui n'est pas vraiment public pour l'instant. Ceci dit, ses concurrents sont venus dire bah nous, ça nous intéresse de faire des centrales au charbon. Alors évidemment, ça crée immédiatement de l'émoi, mais je pense que c'est de cet émoi-là que sont nés un certain nombre d'initiatives parallèles. Alors, il y en a une série d'initiatives qui finalement ne verront probablement pas le jour. C'était Poéo qui expliquait que parallèlement à la création d'une centrale au charbon, il allait investir dans un institut de formation des métiers pour les économies d'énergie. Vous voyez, ça faisait une bonne balance comme ça. Il y a eu, et notamment parce qu'il y a eu aussi à ce moment-là une pression réglementaire ou législative qui s'est fait jour à travers le Grenelle. À travers le Grenelle, il y a eu cette disposition du Grenelle 1 qui dit il n'y aura pas de centrale au charbon tant qu'on ne saura pas traiter le problème du CO2. Donc avant l'apparition de ce texte, on pensait que le problème du traitement du CO2 était un sujet intéressant sur lequel on avait intérêt à travailler. Donc après l'approbation de cette loi, c'était plus seulement un sujet intéressant, c'était un sujet vital pour tous ceux qui souhaitent pouvoir faire des centrales au charbon en France et peut-être même bientôt ailleurs. Et ben, tout ça, mis bout à bout, a conduit à la création de cette chaire industrielle dans laquelle il y a donc l'École des mines de Paris qui apporte un peu le support juridique à travers une notion de fondation. L'Université du Havre s'est mise dedans et abordera plutôt les aspects acceptabilité sociale, enfin des dimensions effectivement beaucoup plus soft. Et il y a là-dedans... quelques grands industriels, donc on doit avoir Total, Air Liquide, Alstom, qui sont tout à fait motivés par la résolution de cette question, et également l'autorité portuaire et les collectivités, donc villes et communautés d'agglo, sont dans la chaire industrielle. Voilà, j'en tire pas de conclusion théorique globale, mais je pense que cet exemple est assez intéressant.
D'accord. Alors, pendant que Jacques Passemard va préparer une planche PowerPoint pour illustrer son intervention, je cède la parole à Philippe.
Juste un point, j'ajoute qu'il n'existait aucun pôle de compétitivité en France qui, de près ou de loin, ne s'apprêtait à traiter de cette question. Ça prouve bien qu'il faut à un moment donné une concentration de motifs pour faire naître quelque chose.
Ah oui, alors, par rapport à ta question, Xavier, je vais répondre par une autre question et une affirmation. La première question, c'est, faut-il éviter l'éparpillement ? Peut-on encore éviter l'éparpillement à l'heure de la globalisation économique ?
Et la deuxième, le deuxième élément sur la taille critique, moi, la masse critique, moi, je n'y crois pas. Il n'y en a pas. Alors, un exemple à l'appui. Hier, vous m'avez entendu réagir, c'est trop tard pour l'éolien. Pour faire la liaison entre innovation, industrialisation, territoire et emploi. J'ai conduit en 2004 une délégation de chefs d'entreprise regroupés dans un cluster pour aller en Allemagne explorer la filière éolienne. Mais sûr de notre fait, en disant on a tout ce qu'il faut sur le territoire local, de savoir-faire, d'intelligence, de maîtrise, d'infrastructure et de marché. Donc on avait tous les éléments pour construire et une volonté des collectivités d'investir dans une filière de reconversion ou en tout cas de diversification de nos activités industrielles, navales ou aéronautiques. Donc tous les savoir-faire. Donc je suis allé avec une délégation, il y avait des ingénieurs, des transporteurs, des civils, des avocats, des machins, des trucs, etc. On n'a pas eu besoin de faire une grosse étude. C'est-à-dire que dès que nous sommes arrivés dans la première entreprise, nous avons conçu tout de suite qu'il était trop tard. Alors, on peut revenir en se disant...
Il y a
5 ans, hein. Donc, on revient soit en se disant, c'est foutu, on va faire autre chose, soit en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Alors, qu'est-ce qui est rattaché au territoire? Qu'est-ce qui est rattaché à nos savoir-faire? Quand je disais qu'il y a du génie civil, donc ça, c'est évidemment attaché au territoire, il y a de la chaudronnerie, ça coûte cher à transporter. Il y a des matériaux composites pour les pales, et ça on sait faire quand on sait faire des avions. Donc on sait faire la chaudronnerie quand on sait faire des bateaux, etc. Il y a de l'électronique. Alors on est plutôt sur une stratégie de passer des partenariats avec différents groupes, en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, pour rechercher quel pourrait être l'apport supplémentaire lié au territoire et qui nous permettrait à la fois de participer à un process de construction et à la fois de se garantir sur le site, toute la valeur ajoutée qui se fait notamment au travers de l'entretien des éoliennes. Notamment, quand on est au bord de la mer, s'agissant du offshore. Voilà une autre forme d'intelligence et d'approche. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et quand je dis, faut-il éviter l'éparpillement, on a le plus beau modèle d'éparpillement industriel sur notre territoire, c'est Airbus. Le process industriel d'Airbus, il est extraordinaire. C'est le fleuron international de l'aéronautique. Rien que sur le département de la Loire-Atlantique, il y a 3 usines Airbus. Alors je ne vous parle pas des entreprises de rang 1 qui s'implantent actuellement sur notre territoire. Alors, rang 1, c'est 200, 300, 400 salariés. Donc voilà un système totalement éparpillé, mais qui est capable de concentrer et de produire beaucoup d'emplois sur un territoire. Deuxième exemple lié aux énergies. Là, à l'inverse, une initiative à l'École centrale de Nantes où un chercheur travaille sur les énergies liées à la mer. L'énergie de la mer, c'est un peu compliqué. On dit par exemple l'énergie des vagues, il y a la houle, il y a les vagues, il y a les courants, il y a les marées, il y a la température, etc. Le ressac, bon, et maintenant les micro-algues. Bon. Donc ce chercheur travaille sur le bassin de Carène de l'École des mines de Nantes et invente un espèce de gros culbuto qui, s'agitant dans les vagues, produit de l'énergie. Bon, je fais un raccourci rapide. Et donc là, par contre, on est directement à la source. C'est-à-dire qu'on se dit, comment est-ce qu'on peut, à partir de cette recherche-là, sachant que sur la planète, il y a d'autres chercheurs, d'autres groupes, des avancées sur d'autres modèles, etc., comment est-ce qu'on peut, nous, capter immédiatement quelque chose qui est né sur notre territoire et essayer, effectivement, d'en conserver maximum d'atouts dans la durée sur les capacités qu'on peut pressentir. Et là, on n'a aucune garantie. Donc on s'investit, les collectivités locales sont très investies, l'État, pour mettre en place un système d'expérimentation, puisque c'était contenu aussi dans tes questions, c'est-à-dire la recherche, un laboratoire d'expérimentation, mais s'agissant de ce type d'énergie, ben, il faut dégager des espaces marins. Je vous passe les détails, mais donc un fort investissement pour accompagner tout au long du process et déjà réserver effectivement la capacité pour partie à pouvoir construire effectivement la chaudronnerie. Une machine à vagues, comme je l'ai décrit, c'est un gros chalutier, ce qui mesure un peu la taille d'un chalutier. Donc vous voyez, il faut donc beaucoup de matières premières. Donc, et toute notre stratégie c'est d'investir toujours à chaque étape, sans savoir justement si on pourra continuer de capter. Mais c'est de mettre toutes les énergies pour essayer de les garder sur le territoire.
Merci Philippe, on va laisser la parole à Jacques.
Merci. Tant que ça s'allume, il se met en route une centrale à charbon de 1000 MW par semaine en Chine. Je ferme la parenthèse, sans prendre trop de précautions. Je vais vous parler de la façon dont on construit notre stratégie en fait, de développement industriel autour des technologies dont nous avons parlé. En prenant deux exemples. Hein. Bien entendu, Luc vous a présenté toute cette vitrine aquitaine, et j'ai entendu la réflexion, on ne voit pas trop la logique et comment tout ça se construit. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse part d'opportunités. Hein. Il y a quelques atouts que l'on découvre, même après coup, que les industriels apprécient des fois presque à notre insu. Voilà, vous avez du soleil, de la place, des terrains pas chers, etc. On vient là. Puis après, on dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut reconstruire avec tout ça? Donc, on a des briques. Alors, sur une filière photovoltaïque, ce n'est pas simplement l'installation et l'exploitation. Hein. Vous voyez Exosun, là, que vous avez vu, qui est donc dans l'aval du processus. Mais l'idéal, c'est quand même de maîtriser l'amont, hein, la fabrication. Et j'en ai pris le son auprès du président Zeller en Alsace, qui m'a dit, mais... Commencez par l'exploitation et vous verrez que ça va créer le métier et vous remonterez la filière beaucoup plus facilement que si vous descendez des laboratoires. J'ai retenu la leçon. Donc, vous voyez des X, là, c'est des projets qui sont bien avancés, qui sont à 90%, voire plus, hein, de certitude sur leur mise en place. Donc, il s'agit de maîtriser les siliciums suivant des nouvelles technologies qui vont nous permettre d'économiser 30% du prix du silicium. D'alléger le poids de 20%, parce que les toitures, elles ne résistent pas toutes. Donc ça, c'est en développement actuellement, comme vous l'avez dit, en s'appuyant sur des compétences du spatial. Hein. Donc ça, c'est en cours. Et puis, vous voyez, on a des gros projets d'installation. On a sur Laval des gens qui vont faire les panneaux et les habillages de toiture ou de terrain. Et là, on ne se fait pas d'illusions. Ça va venir tout seul. Et c'est des activités économiques locales, voire nationales pour des grands champs. Il y aura du développement là, quasi naturel. Donc il s'agit de regarder, d'observer toute cette chaîne et de regarder où on a les points faibles, où est-ce qu'on peut agir et d'aller chercher éventuellement les partenaires qu'il nous faut en leur disant, ben, voyez, si vous vous intégrez dans ce processus-là, eh ben, vous allez avoir de la ressource amont et du business en aval. Donc ça, c'est notre bâton de pèlerin d'attracteur sur le territoire. Alors, c'est un peu plus sophistiqué que ça. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, ici, toutes les technologies photovoltaïques, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a une dizaine, vous voyez, qui vont des technologies de petits capteurs solaires que vous pouvez avoir pour les téléphones ou votre montre, hein, jusqu'à, effectivement, des choses beaucoup plus lourdes avec des technologies différentes, hein, celles qui sont matures et celles qui sont en émergence, et de regarder où sont nos atouts, dans quelle position on se situera, qui nous manque dans chacune des chaînes, et de dire, ben, on va miser, nous, sur trois chaînes sur lesquelles on pense avoir des compétences et du moins un avenir. Et on ne va pas tout faire. Vous voyez, les capteurs, par exemple, les cellules organiques, on a des labos très avancés là-dessus, mais c'est quand même un horizon beaucoup plus lointain, peut-être même que l'échelle qui est écrite là. Mais on y va quand même, on fait un peu comme notre collègue de Nantes, c'est-à-dire de miser sur un avenir, parce qu'on y croit, et bon, ben, c'est à nous... à prendre le risque côté pouvoir public. Donc voilà une analyse qui nous permet de dire on va aller chercher un tel ou un tel. Alors je pourrais vous montrer un autre exemple tout à fait récent sur l'équipement, le domaine médical, hein, où on a de la recherche, on a le marché bien sûr, c'est nous tous, mais il nous manquait un industriel. On est allé le chercher, pas très loin d'ici. Il vient en région avec tout son bureau d'études, une quarantaine d'emplois, et puis quand il a vu son bureau d'études là-bas, il a dit ben, « faut jamais de ma production, 350 emplois ». Quand il a vu sa production là-bas, il appelle ses sous-traitants, il faut venir travailler en Aquitaine, parce que tout est là, et c'est là qu'on doit se développer ensemble. Donc, vous voyez, il y a des cercles vertueux qu'on initie et qui se développent une fois que vous avez fait, j'allais dire, un petit peu les premiers pas. Vous parliez de la filière éolienne. Alors, pareil, 2005-2006, on a regardé cette filière sous deux angles. D'abord, ce qu'on appelle l'étude ACME, c'est-à-dire l'application des composites, tout secteur, en partant de nos savoir-faire aéronautiques. Et puis l'autre étude, c'était une étude que nous avons en anticipation sur la revitalisation de la zone industrielle de Blanquefort. Vous l'avez lu dans la presse, on avait le problème de Ford, qui allait fermer, qui a fermé, mais qui a été repris, bien malheureusement. Mais quand même, l'étude a été faite, et on a cherché une vocation pour ce site. Alors, vocation du site, ça s'appuie sur des atouts, j'allais dire quasi naturels du site par rapport à ce qu'on recherche. La position géographique, la place disponible et la position en bord d'estuaire de cette zone, la voie ferrée qui passe dedans et des grands terrains, etc., la recherche pas très loin, nous a fait tout de suite penser à l'éolien. En pensant aussi que les gens de la mécanique de Ford, qui font des boîtes de vitesse à Blanquefort, pourraient être aussi une compétence intéressante pour les nacelles d'éoliennes. Pas très loin, bien entendu, les composites. Donc on a travaillé là-dessus, et on en est aujourd'hui avec l'ingénieur que j'avais mis là-dessus, d'ailleurs, qui, pour la petite histoire, est parti chez EDS Astrium, proposer une diversification, une boîte où il avait déjà travaillé, avec un certain succès, puisque EDS Astrium nous confie la stratégie de diversification, et notamment tout le projet éolien. Alors, il a monté un centre de calcul, il offre ses calculs, il a acheté des modèles mathématiques, et puis, très rapidement, Astrium dit qu'il faut qu'on produise, il faut qu'on fabrique des pales. Mais ce n'est pas notre métier, notre secteur vend des composites à 35 euros le kilo, les pales d'éoliennes c'est à 9 euros le kilo. Il y a quand même des cultures industrielles qui ne sont pas les mêmes, donc il faut faire une autre usine à côté. Astrium et Blanquefort, c'est distant de 3 km, donc c'est une façon de contrôler l'usine sans la mélanger. Et Astrium va sur des machines de grande puissance pour l'offshore. Je pense que c'est une industrie mature, comme vous l'avez dit, mais qu'il faut maintenant remettre à plat, parce qu'on fait des monstres. On charge bientôt 60-70 tonnes en haut des mâts de mécanique. On fait des pales qui font aujourd'hui 60 mètres, demain 80 mètres, 100 mètres de diamètre. Donc peut-être reposer des questions un peu fondamentales avant d'extrapoler à chaque fois la taille en fonction de la puissance que l'on recherche. Donc EDS travaille là-dessus et va nous proposer très rapidement des nouvelles machines. Composite, pâle et clapot, ben bien sûr, on avait une petite entreprise qui savait faire. On est en train de la ramener sur la zone avec Astrium, qui installe son usine. Le coup de pioche est donné, le terrain permis de construire est en cours. La mécanique pour faire la machinerie, ben nos amis de Exoford, de FAI, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé de façon très analytique quelles étaient les pièces qui étaient en sous-alimentation ou en défaillance ou en faiblesse au niveau de l'approvisionnement. Et ils sont tombés sur les grandes couronnes de roulement. Alors c'est des couronnes forgées, assez sophistiquées. Il y a une rareté qui s'établit. C'est des couronnes qui sont en concurrence avec les couronnes de tours de chantier, avec les tourelles de char, avec des grands roulements. Et là, ils ont dit qu'il faut qu'on se mette sur ce créneau-là. Donc, ils ont pris une licence d'un Allemand qui fait des couronnes forgées de façon assez exemplaire. Et on monte une forge. On monte une forge en couronne, unique en France, et qui va amener 170-200 emplois. On est en train de finaliser les tours de table. Les terrains sont achetés par la Seine, tout est prêt. Donc, enfin, on va commencer à fabriquer de la mécanique d'éolienne. Et puis, on a une société de commercialisation qui est là depuis une quinzaine d'années, Valorem, qui fait de l'installation en ingénieriste et qui commence à exploiter d'ailleurs quelques champs éoliens et qui vient de racheter une licence à un Canadien qui a déposé le bilan, à AER, qui dit, moi avec cette licence-là, il faut que je fabrique, parce que le débouché c'est le marché France, le marché anglais et l'Afrique du Nord, mais je ne sais pas fabriquer. Donc vous voyez tout de suite mon regard, on va associer tous ces gens-là, on est en train de le faire, pour que sa fabrication se fasse en mécanique chez FAI, ses pales se fassent chez EADS, les outillages se fassent chez Plastinov, et on a créé un creuset de développement et de compétences, cercle vertueux, du développement, et après on pourra, pratiquement se retirer, ça va venir tout seul. On est en train de travailler, nous, au niveau de l'agence, depuis la semaine dernière, au centre de formation, on a déposé des statuts, la région a voté un budget, centre de fabrication pour faire ces grandes pales, c'est pas évident de faire des pièces qui sont plus longues que la pièce, là, quand on a appris à l'école à faire des petits échantillons sur le coin d'une table. Donc on monte ce centre de formation, on aura à peu près une 60-70 élèves par an. Voilà comment on construit et on capte des projets, et on développe cette filière qui, je vous le promets, dans 2 ans et demi, aura 600 emplois nouveaux sur cette zone.
Voilà, la compétition entre les territoires. Les territoires sont en compétition.
C'est gênant ?
Ah non ? Pas du tout.
Non, ça fait
C'est gênant,
vous posez la question de la compétition entre territoires. Hein. D'accord. Intervention très intéressante parce qu'on a finalement presque une solution à la question de l'ensemblier dont Philippe parlait hier, hein. Et en même temps la question du financement privé. Et ce sera aussi une question qu'on aborde en cas de débat, c'est la place du financement privé, puisqu'à Bordeaux on a pu regretter aussi certains phénomènes spéculatifs liés aux fermes photovoltaïques, cette énergie qui est subventionnée, et où finalement c'est quand même le contribuable qui en fait les frais, quoi. Donc quelle place pour le financement privé dans ces synergies ?
En termes d'innovation ou d'installation ?
Oui. D'innovation.
Alors, il y a Antoine qui veut venir.
Alors Antoine, secours.
Oui. Je m'ai mis à la table ronde.
C'est le jeu.
Je m'ai mis dans le système de la table ronde.
Dans la chaîne de valeur.
Je vais évoquer la question du financement, mais plus globalement, je suis un petit peu en désaccord avec ce que disait Philippe tout à l'heure. Même si, par ailleurs, je partage, je reste en tant qu'élu, comme citoyen, l'idée qu'un territoire essaie toujours de défendre les activités innovantes à forte valeur ajoutée, si possible aussi, à quantité d'emplois produites importantes, pour qu'elles restent sur le territoire et même qu'elles y prospèrent. Je crois qu'à la faveur des exemples, de l'exemple aquitain qui nous a été présenté sous divers angles, encore maintenant on voit les filières qui s'y développent, ces filières qui sont finalement des domaines d'activité stratégiques industrielles pour ces territoires, je crois que à la fois toute la difficulté et tout l'intérêt de l'approche réside en fait dans la coexistence en fait de deux systèmes. Un système dit territorial, qui lui, système d'innovation, cluster, pôle de compétitivité, etc., différentes formules de différentes tailles, qui ont toutes pour objet de mettre en relation, en faisant des économies externes, des externalités positives, les centres de recherche, les entreprises, les centres de transfert technologique, etc., pour essayer de faire monter la mayonnaise, si vous passez l'expression, et essayer de construire des filières sur un territoire. Ce sont des approches systémiques territoriales. Mais en même temps, coexistent des systèmes résiliaires, de réseaux. Et ces systèmes de réseaux, eux, ce sont des points de réseau qui relient, en fait, divers territoires. Et quand on dit qu'ils relient divers territoires, ça peut être à la fois un atout et un danger pour ces territoires. Un atout, puisque par la liaison, par ces réseaux de ces différents systèmes territoriaux, ils peuvent, si vous voulez, rechercher des ressources, que ce soit en amont d'une filière ou en aval, ou carrément sur la phase industrielle de la filière. Ils peuvent rechercher des ressources qu'ils n'ont pas nécessairement sur le territoire et qu'ils vont trouver ailleurs. Et c'est là l'exemple d'Airbus qui est frappant. Airbus, bon, d'abord c'est un projet européen à plus grande échelle, mais on recherche sur divers territoires, à l'échelle de l'Europe, différents acteurs qui, de l'amont à l'aval de la filière, apportent une contribution. Et ces acteurs, on ne les trouverait pas sur le même territoire régional, pas plus qu'en France, que dans un autre pays européen. Donc, là, on est bien en présence de petits systèmes territoriaux, pour l'exemple d'Airbus, mais aussi d'un grand système résiliaire, de réseau, hein, qui constitue cette filière, mais sous une autre forme. Et donc, c'est un atout, de ce point de vue-là, que ces différents territoires où ces activités sont présentes et prospèrent, qu'ils puissent être reliés et trouver ailleurs des partenaires extraterritoriaux. Mais dans le même temps, ça peut être un danger, une menace, et là, je retrouve la casquette et la préoccupation de l'élu, qui essaie de dire qu'il peut y avoir des fuites. Parce que quand on est sur un réseau, eh bien, il peut y avoir des fuites, aussi bien des fuites de valeur ajoutée que des fuites d'innovation, que des fuites d'emploi. Et c'est à cela aussi que chacun des territoires sont en compétitivité. Le fait d'un réseau, ça les met en compétitivité, puis en compétition, puisqu'à chaque instant, tant du point de vue de l'innovation que des financements, etc., ils sont en compétition les uns les autres, même s'il y a, par l'aspect positif de ces réseaux, un aspect partenarial. Donc ils sont à la fois partenaires, mais aussi en compétition. À travers ce double jeu, ce double système, cette double systémique, territoriale d'une part et résiliaire d'autre part. Donc vous voyez que ce n'est pas tout blanc ou tout noir, en fait. Je crois qu'il coexiste vraiment deux systèmes. Il faut en être aujourd'hui convaincu. D'ailleurs, c'est ce que la science économique régionale enseigne depuis longtemps. Hein. Je crois que toute la difficulté pour les territoires, c'est précisément de pouvoir se brancher sur ces réseaux tout en essayant d'en tirer le meilleur et en évitant le pire.
Alors, Philippe, une réaction.
Oui, une réaction, parce que je ne crois pas qu'on puisse opposer les deux. Bon, je vais revenir à la fois sur Airbus et à la fois sur l'éolien. Airbus est un excellent exemple. C'est pour ça que j'ai posé la première question. Faut-il éviter l'éparpillement? C'est-à-dire, du moment où on reconnaît effectivement cette complémentarité avec d'autres territoires, on accepte effectivement cette compétitivité. Et on crée les conditions pour qu'elles soient positives pour son territoire. Moi, dans l'année qui vient de passer, j'ai coupé 3 rubans d'usines américaines venant s'implanter à Saint-Nazaire ou à Nantes, co-traitant de Boeing et travaillant pour Airbus. À chaque fois, c'est 100, 200, 300 emplois qui viennent sur nos territoires parce que, effectivement, au départ aussi, on a, nous, collectivités locales, au moment de la crise d'Airbus, la région en tête, suivie du département, donc métropole et l'État, on a été les premiers, parce qu'on avait une longueur d'avance, à créer un pôle de recherche sur les matériaux composites pour fixer Airbus, parce que la question était de savoir si Airbus allait se maintenir sur nos territoires au moment de la crise, donc fixer Airbus sur nos territoires. Et c'est parce que nous avions ce projet d'un pôle d'excellence sur les matériaux composites que les Américains sont venus. Donc, tout est lié, et donc, il y a cette acceptation aussi de... Donc, l'exemple de l'éolien, si je prends l'exemple de ce qui vient de nous être proposé. Nous, quand on est revenu d'Allemagne, on a dit, on ne sera pas en sanglier. Donc, c'est aussi une question des stratégies des territoires. On ne sera pas en sanglier parce que personne n'était en capacité de porter cet élément-là. Donc, la question, effectivement, c'est de savoir quelle est la réelle valeur ajoutée sur nos territoires. Quand il y a eu la mise en compétition des territoires pour Airbus, je reviens pour l'A380, nous étions candidats. Évidemment, nous avions, j'allais dire, plus d'atouts que Toulouse, du point de vue des aménités du territoire, un aéroport, un port, etc. Vous avez vu ce qu'il a fallu faire à Toulouse, hein, les gabarits de route, enfin, ça a coûté une fortune. Le choix était politique, et uniquement politique, il n'était pas un choix de stratégie industrielle. Bon, nous, on a cru à ce moment-là qu'on avait perdu beaucoup. Et en fait, on n'a rien perdu, mais on participe effectivement à ce process, à cette chaîne dans Airbus, dans l'A380, demain dans l'A350. Donc, notre territoire n'a pas pâti de ne pas être retenu comme un sanglier sur la question d'Airbus. Donc, le choix que nous faisons pour l'éolien est effectivement alors, on sera en compétition sans doute avec des entreprises du bassin bordelais, mais si eux parviennent à construire et à fixer sur un territoire un ensemblier, évidemment, on deviendra voisin et partenaire.
Avec des pales depuis le mois de juillet.
Albi.
Oui, trois remarques encore. Premier point,